autour de la question.
Qu'est-ce que ça va changer?
Comment ça se passe ailleurs?
Pourquoi ça?
En quoi ça nous touche?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravie de vous retrouver avec Apolline Verlon-Raison à la réalisation pour nous demander pourquoi nous sommes si chatouilleux et jusqu'où peut-on résister aux chatouilles, à un fou rire ou à une irrépressible démangeaison? Pourquoi un hoquet est-il si difficile à contenir? Qu'est-ce qui nous fait subitement rougir, avoir les mains moites, la chair de poule, des tics ou une envie pressante? Nous connaissons tous ces moments où le corps déraille légèrement et prend toute la place. Mais qu'est-ce que ça signifie et que se passe-t-il donc dans notre cerveau à ce moment-là? Notre invité, le neurologue Laurent Vercueil, a pris tous ces micro-phénomènes au sérieux dans un essai original et passionnant qui vient de paraître chez Belin, Chatouille et autres petits tracas neurologiques autour de la question que se passe dans notre cerveau quand ça chatouille ou quand ça gratouille. Bienvenue. Bonjour Laurent Vercueil.
Bonjour Caroline.
Merci d'être venu depuis Grenoble pour être en direct autour de ces chatouilles et autres petits tracas neurologiques. C'est le titre de l'ouvrage que vous venez de publier aux éditions Belin. On peut se demander ce qui vous a pris, Laurent Vercueil, vous qui êtes neurologue, responsable de l'unité des explorations fonctionnelles du système nerveux au CHU de Grenoble et chercheur INSERM à l'Institut des neurosciences de Grenoble. Qu'est-ce qui vous a pris de vous attaquer à des sujets aussi peu sérieux que les chatouilles, les guiliguilis, les démangeaisons, le fou rire ou le hoquet? Qu'est-ce que ces micro-incidents disent de nous et du fonctionnement de notre cerveau? Est-ce bien sérieux? Vous vous posez tout de même vous-même la question dans le premier chapitre consacré aux chatouilles.
Oui, parce que ça peut paraître effectivement des sujets un peu futiles, c'est à la fois banal, tout le monde connaît ça, et en même temps, moi je suis neurologue, c'est-à-dire que je vois en consultation des gens qui viennent pour des troubles neurologiques, et parfois, via la maladie, on voit qu'on peut arriver à trouver un biais pour comprendre le fonctionnement du cerveau dans des fonctions tout à fait normales, tout à fait habituelles, et cette façon un peu d'approcher le fonctionnement normal du cerveau par ce qui déraille de temps en temps en pathologie, c'est un peu ça qui m'a intéressé. Et c'est pour ça que dans toutes ces petites manifestations, pas mal ont pu être nourris dans la façon qu'on a de les comprendre par l'expérience de patients, de personnes qui souffraient de troubles neurologiques, qui à un moment donné avaient ce type de manifestation.
Petite neurologie des tracas, hein. C'est voilà, un peu comme ça aussi que ça pourrait s'intituler.
C'était tout à fait un petit peu l'idée, hein, la petite neurologie, pour montrer comment la clinique, le cerveau malade, pouvait permettre de comprendre aussi le cerveau sain.
Et vous dites aussi dans votre démarche que finalement la question qui aurait à se poser, c'est comment je me sens? Comment est-ce que je me sens dans mon corps et dans mon cerveau? Qu'est-ce qui se passe quoi finalement?
Voilà,
là
c'est ça. Parce que dans la question comment je me sens ou comment vous sentez-vous, Caroline, il y a à la fois, vous allez passer au scanner un petit peu votre état intérieur, et en même temps il y a le comment. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je suis en train de chercher comment je me sens? Donc il y a le comment je me sens et comment ça marche quand je me sens.
Qu'est-ce qui passe du corps au cerveau? En tout cas, moi, je sais que je suis soulagée parce que c'est une des rares émissions en direct au cours de laquelle, si j'ai un fou rire, c'est pas dramatique, puisque vous m'expliquerez pourquoi et comment.
Bien sûr, et puis vous pouvez aussi vous gratter un petit peu.
J'ai le droit de me gratter, mais ça se voit pas, les auditeurs le voient pas. Autour de la question, que se passe-t-il dans notre cerveau quand ça chatouille ou quand ça gratouille? Je propose de commencer par quelques pistes de réflexion sonore sur tous ces petits tracas neurologiques. C'est le mix forcément chatouilleux d'Apolline Verlon-Raison.
Excuse-moi un instant, j'ai une envie de faire pipi. Déjà vu, what is it?
A déjà vu is usually a glitch in the matrix. It happens when they change something.
Les rats ne sont pas simplement sensibles aux chatouilles, ils les adorent. Un chatouillis sur l'arrière-train ou le ventre, et l'animal émet une vocalisation, certes inaudible pour l'oreille humaine car appartenant aux ultrasons, mais il est possible d'en avoir un aperçu en modifiant les fréquences sonores.
Pourquoi j'ai le...
Le hoquet, c'est un réflexe respiratoire qui se manifeste par des contractions spasmodiques et incontrôlables du diaphragme, puis de la glotte.
Ça vient d'où les mains moites? Pourquoi certains d'entre nous ont les mains moites?
Et je vais vous dire...
Maman. irrésistible, c'est le rire de Gisèle qui en demande à sa maman, qui n'est d'autre qu'Apolline, notre réalisatrice. Pourquoi sommes-nous, Laurent Vercueil, si sensibles aux chatouilles dès le plus jeune âge?
Alors, probablement parce que ça a une fonction assez importante. Et on a bien entendu dans l'extrait où la petite fille disait encore maman. C'est-à-dire que ça permet le jeu. Et le jeu, c'est un élément essentiel dans la formation du petit enfant, dans le fait de pouvoir grandir dans sa tête.
Donc c'est un jeu parce qu'on n'est pas chatouilleux de la même manière sur toutes les parties du corps non plus.
Alors voilà, c'est ça. C'est qu'il y a quand même des régions qui sont plus chatouilleuses que d'autres. Et ce qui est vraiment très étonnant, c'est que ce ne sont pas du tout les régions où il y a le plus de capteurs, le plus de récepteurs cutanés. Les récepteurs cutanés au niveau de la peau, c'est ce qui nous permet d'explorer l'environnement qui est autour de nous. C'est la raison pour laquelle ils sont très très présents au bout des doigts, sur les mains. Ce sont des régions qui nous aident à explorer le monde environnant.
Et on n'est pas chatouilleux sur le bout des doigts?
On n'est absolument pas chatouilleux. On est chatouilleux plutôt dans les creux du cou, creux des aisselles, les endroits avec lesquels on n'explore pas du tout l'environnement. Ça, c'est assez clair. Donc, ce ne sont pas ces régions-là, ces régions donc très sensibles, qui sont le plus sensibles aux chatouilles. Ce sont des régions plutôt qu'on va dire qu'on garde contre soi, qu'on garde un peu caché dans les plis, tout ce qu'on va garder un petit peu contre soi, tout ce qui est plus ventral par opposition.
Oui, c'est sur la partie ventrale. Voilà. Vous dites d'ailleurs qu'il y a une véritable science des chatouilles. Ça a été étudié, notamment chez les rats. On a entendu un petit extrait. Les rats sont très chatouilleux.
Tout à fait. Il y a des chercheurs à Berlin qui ont réalisé des enregistrements de l'activité cérébrale à l'aide d'électrodes implantées dans le cerveau de rats. Et ils se sont mis à chatouiller les rats parce que les rats sont chatouilleux. C'est-à-dire que si on les chatouille, alors pareil, ils ont des régions qui sont chatouilleuses et d'autres pas. Il ne faut pas chatouiller la queue ou le dos du rat, il faut chatouiller plutôt le ventre. Donc des régions qui sont plus vulnérables, c'est le cas un petit peu aussi pour nous, le cou est une région vulnérable. Donc si on va chatouiller ces régions-là, on enregistre des activités dans le cortex sensitif du rat et on enregistre des petits cris de plaisir qui sont des ultrasons grâce à des instruments de mesure spécifiques.
Et ils en redemandent aussi, les rats.
Ils en redemandent, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'une fois que le rat sait que la main qui est dans la cage n'est pas en train de venir lui piquer sa nourriture, mais est là pour le chatouiller éventuellement, elle va se mettre à poursuivre la main pour venir se faire chatouiller les flancs et rééprouver un petit
on
peu
on veut et on veut pas, parce que c'est un peu toujours ça avec la chatouille, on peut jamais se chatouiller soi-même, on peut pas se chatouiller tout seul.
Non, on peut pas se chatouiller soi-même, et ça, il y a plusieurs raisons à cela. D'abord parce que, encore une fois, c'est une activité sociale, c'est une activité de jeu, donc il faut bien une autre personne pour avoir un jeu, on ne joue pas tellement avec soi-même. Ensuite, parce que les zones qu'on chatouille, je vous l'ai dit, c'est des zones qui sont sensibles, parce qu'elles sont probablement un peu vulnérables, et que si je les expose à quelqu'un d'autre, je suis vulnérable, mais si je les expose à moi, il y a peu de chances que je me fasse du mal. Donc j'ai pas d'émotion, je crains pas d'accéder à ça. Et le dernier point qui joue un rôle, c'est la prédictibilité de la chatouille, c'est-à-dire le fait que quelqu'un d'autre me chatouille, je sais pas où ses doigts vont me toucher. Alors que si je le fais moi, mon cerveau, qui est un organe prédictif merveilleux, va m'indiquer exactement où mes doigts vont se poser et j'aurai plus l'effet de surprise.
C'est donc, ça, c'est très important, l'effet de surprise, mais on l'attend, on rigole. Enfin, les enfants, comme la petite Gisèle, on rigole des fois
les
avant.
Les enfants rigolent avant, bien sûr. Ils savent qu'ils vont avoir l'effet et donc la surprise est encore plus grande parce qu'on ne sait même pas à quel moment ça va tomber, on ne sait pas où, on ne sait pas quand.
Et en même temps, vous vous entraînez bien loin puisque vous dites que c'est la partie ventrale du corps qui serait sensible aux chatouilles. Vous parlez de vulnérabilité, ça serait aussi une forme de vulnérabilité. Enfin, ça montrerait notre vulnérabilité.
Disons que c'est sûr que, si vous voulez, il n'y a pas si longtemps, on était à quatre pattes. Et en gros, toutes nos zones non chatouilleuses sont les zones dorsales. Ce sont les zones, le dos par exemple n'est pas très chatouilleux, l'arrière de la tête. Et ce sont des zones qui sont exposées et qu'on a tendance à davantage, donc à moins protéger que les zones ventrales où on a les organes qui sont plus accessibles. Donc si vous voulez, toutes ces zones-là sont des zones de moindre résistance qui sont éventuellement plus vulnérables. Un chien, lorsqu'il commence à jouer avec vous, s'il est dominé, il va se mettre sur le dos, il va exposer son ventre et se laisser effectivement chatouiller en quelque sorte en agitant la queue parce qu'il est content, parce que c'est du jeu. Mais dans le jeu, il y a toujours cet aspect un petit peu émotionnel de on fait semblant de se battre, mais on est quand même amis, c'est quand même du jeu.
Oui, c'est du jeu, c'est du semblant, et c'est notre corps qui remonte à notre cerveau. C'est ça, c'est notre corps qui se rappelle à nous.
Voilà, c'est ça. Ça, c'est un petit peu le fil rouge du livre qui est tout ce qui se passe d'abord dans notre corps et ensuite notre cerveau va nous construire un petit peu une histoire à propos de ça. Et c'est un petit peu ce décalage aussi parce que chaque fois, pour chaque chapitre un petit peu de ce livre, c'est l'irruption tout d'un coup du corps qui nous rappelle je suis là et je suis là. Et si vous voulez, derrière le message, c'est effectivement le fait que probablement on a un petit peu tendance à l'oublier et à penser qu'on est un peu déconnecté de ce corps et qu'on
a un cerveau formidable, très intelligent et qui contrôle tout.
Voilà ce que disait Raoul Van Egem, qui est un philosophe, un des pionniers de 1068, était que c'est la pensée séparée, hein, c'est la pensée séparée du corps, où on pense que l'esprit domine le corps. En fait, non, le corps, il est bien là, il est bien, c'est lui qui existe, c'est lui qui vit. Et notre cerveau, non seulement fait partie du corps, bien sûr, mais souvent, il est un peu le dernier informé de ce qui se passe.
Alors, quand le corps se rappelle à nous, c'est parfois en nous demandant de nous gratter. La démangeaison, la gratouille, le prurite, un mot un peu moins joli, là, on peut pas y résister non plus.
Alors, on peut résister un petit peu, parce que c'est pas très très bien vu de se gratter
en
devant
public,
quelqu'un d'autre
non,
en public. Probablement parce que c'est souvent des gestes qui sont pas très élégants, et aussi parce qu'en fait le fait de se gratter est très contagieux. Hein. Lorsqu'on voit quelqu'un qui se gratte, on a tout de suite envie de se gratter.
Ça, c'est normal, ça, docteur.
C'est tout à fait normal, c'est très répandu. Et si vous voulez, c'est souvent quelque chose qui participe un petit peu à cette inhibition de grattage, qui fait que probablement on évite un petit peu de déclencher la contagiosité du grattage, qui n'a rien à voir avec la contagiosité des maladies de peau contagieuses. C'est vraiment le fait de se gratter, le fait même d'entendre parler de démangeaison à la radio, ou le fait de lire un chapitre.
Quand j'ai lu votre chapitre sur, je ne sais plus comment il s'appelle, alors c'est un gratteur et comment un bon gratteur fait se gratter 10 autres, j'ai commencé à me gratter un peu partout.
Voilà, à ce moment précis, j'ai envie de me gratter le front, je ne sais pas si je peux.
Vous pouvez, à la radio, personne ne le voit, et pendant que vous vous grattez le front, autour de la question qu'est-ce qui se passe dans notre corps et dans notre cerveau quand ça chatouille, quand ça gratouille, et pourquoi ça fait tant de bien parfois de se gratter, on écoute Claude Nougaro sur RFI. Gratte-moi la tête.
Paris.
C'est bon.
89 FM.
C'est bon. Oh oui, c'est bon. Quand je t'ai vu, je t'ai sauté dessus, pourquoi tu le demandes? Tes ongles taillés en amande. Gratte-moi la tête, mon fasciné. Gratte-moi la tête. C'est bon,
c'est bon, c'est bon.
Gratte-moi la tête, j'aime ça.
C'est bon.
La tête, c'est fait pour penser. La mienne est vide, voilà mon drame. Quand tes doigts remuent sur mon crâne, il me semble avoir des idées. Gratte-moi la tête, c'est bon.
C'est bon, c'est bon.
Gratte-moi la tête, j'aime ça.
C'est bon.
Tiens, mais c'est vrai, j'ai une idée. Tandis que tu me creuses les méninges, on dit que l'homme descend du singe. Eh bien, on va y remonter. Gratte-moi la tête, c'est bon.
C'est bon, c'est bon.
Gratte-moi la tête, j'aime ça.
C'est bon.
Tu me gratteras toute la journée. Moi, je m'éplucherai des bananes, les grosses puces de mon âme. Tu n'en feras qu'une bougée. Gratte, gratte-moi la tête, c'est bon. Gratte-moi la tête, j'aime ça. Oh oui, c'est bon.
Ah oui, c'est bon, comme le dit Nougaro sur RFI. Gratte-moi la tête, c'est bon. J'aime ça. Pourquoi est-ce qu'on aime ça, de se gratter? Pourquoi c'est si bon et pourquoi ça fait mal aussi? Enfin, la limite, elle est quand même complexe, Laurent Vercueil aussi.
À la limite, elle est parfois très ambiguë, hein, surtout sur lorsque la démangeaison devient un peu féroce. Alors, ensuite, dans les sujets un petit peu qui sont abordés dans le livre, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre d'un petit peu de la pression qui s'exerce. Hein. Donc, la démangeaison, c'est typiquement une pression qui s'exerce avec un besoin d'y répondre en se grattant.
Une pression qui s'exerce donc du corps et qui remonte vers le cerveau,
voilà.
Et qui fait qu'après on se gratte.
Et qui fait qu'on va déclencher un comportement, en l'occurrence un comportement de grattage. Mais c'est la même chose avec le besoin pressant. Hein. Si j'ai envie de faire pipi, que je ne peux pas dans l'immédiat, je vais me retenir, je sais faire ça. Mais la pression va s'exercer et de plus en plus cruellement. Hein. Et ça va devenir douloureux. Si j'ai envie de rire, alors que ce n'est pas du tout le moment, que vraiment les conditions ne s'y prêtent pas, que c'est mal choisi et que ça devient un fou rire, pareil, j'aurai une pression de plus en plus importante. Et
si je ne peux pas avoir le fou rire, ça va être très douloureux.
Et ça peut être très douloureux. Et si vous voulez, lorsqu'il y a une pression qui s'exerce, au moment où on va céder la pression, il y aura une sensation de soulagement. Alors, évidente pour beaucoup de ceux que je viens de dire. Hein, oui. Si j'ai une envie de faire pipi énorme, le moment où je fais pipi,
ah, ça, va faire
ça
du bien.
Sera un super soulagement. Hein. Et mais c'est pareil pour le grattage. Lorsqu'on se gratte une démangeaison, on éprouve une petite sensation de soulagement. Et c'est souvent la raison pour laquelle on a beaucoup de petits gestes de grattage très très bénins qu'on ne perçoit presque pas vers le visage notamment. Hein. On passe un peu son temps à remettre un petit peu les traits du visage en place en se grattant légèrement le coin des yeux, le bout du nez. Ça, c'est limite du grattage. Mais ça reste ces petits mouvements qui font un peu du bien parce qu'ils viennent soulager une petite sensation qui était une petite pointe désagréable.
Et qui n'était même pas consciente à ce moment-là. Alors qu'est-ce qui se passe justement quand ça nous gratte, quand ça nous démange? Nouvelle question, poil à gratter, signée Cécile Estienne du mensuel Cerveau et Psycho.
Pourquoi lorsque nous sommes très fatigués, nous avons souvent envie de nous gratter?
Est-ce que le neurologue que vous êtes a une réponse, Laurent Vercueil?
Alors, je peux essayer de formuler des hypothèses, en tout cas. Hein. Je pense que, lorsqu'on est fatigué, on a, de manière assez générale, un petit abaissement du seuil, on va dire, d'inconfort, hein, qui fait que tous les petits messages qui viennent du corps vont être ressentis de manière plus pénible, hein, quel qu'il soit.
Amplifié, moins
filtré. Hein. On a un espèce de gros filtre au niveau du cerveau qui s'appelle le thalamus, quelque chose qui nous permet notamment de focaliser l'attention, de faire des activités. Un bricoleur qui est extrêmement concentré sur ce qu'il est en train de faire peut très bien passer complètement à côté le fait qu'il vient de se couper, parce qu'il est tellement concentré sur la tâche que son thalamus en gros a bloqué tous les messages afférents, tous les messages qui arrivaient, notamment le message douloureux. Et c'est juste à la fin qu'il va dire « mais je me suis coupé, je sais même pas comment ». Donc ce filtre, il est moins efficient dans les cas de fatigue et le seuil de détection de la démangeaison peut être, on peut l'imaginer, beaucoup plus facile. Hein, donc on va davantage sentir tous les petits points d'inconfort, y compris peut-être douloureux, y compris peut-être inconfort positionnel. Voilà, ça c'est un peu l'effet de la fatigue. La deuxième chose, c'est que la fatigue, ça diminue les ressources énergétiques. On a moins de possibilités de mobiliser une énergie qui peut être une énergie attentionnelle, une énergie... Et dans le grattage, il y a ce qu'on disait un petit peu au début, c'est-à-dire que ce comportement, dans la grande majorité des cas, on l'empêche. On l'empêche pour des raisons sociales, des raisons évidentes. Donc le plus souvent, on ne se gratte pas quand même, sinon on passerait notre temps à se gratter. Et donc, si je suis fatigué, peut-être que je vais laisser passer un peu plus facilement ce comportement de grattage, parce que j'aurai moins de possibilités de le contrôler, de l'inhiber de manière puissante, énergétique, énergique.
Alors autre chose qu'on ne peut pas inhiber, on a parlé de choses plutôt rigolotes, les chatouilles, donc le rire, même se gratter, ça peut aller jusqu'à faire mal, mais ce n'est pas si désagréable que ça. Il y a certains bruits, hein, vous le citez dans un chapitre joliment intitulé « Odieux, audio », il y a certains bruits qu'on exècre ou qu'on déteste, évidemment, le bruit de la craie sur le tableau. Vous parlez du polystyrène, c'est ça?
C'est le polystyrène.
Qui vous fait avoir la chair de poule, justement.
Quand on sort, c'est ça. Quand on sort les appareils des cartons, là, et que le polystyrène blanc crisse sur les cartons, je suis très, très vite très mal à l'aise. Et quand je dis que je suis mal à l'aise, je vois bien que c'est pas uniquement audio. C'est-à-dire qu'effectivement, la chair de poule peut venir facilement. Et puis, j'ai une sensation un peu tactile. Et ça a été étudié. C'est-à-dire qu'on voit que c'est pas que de l'audio, c'est pas que de l'acoustique, il y a autre chose qui est de l'ordre du tactile, et probablement on va dire que c'est polymodal, c'est-à-dire que ça touche différents domaines de la sensorialité, et qu'il y a plusieurs canaux qui réagissent de manière un peu aversive, c'est-à-dire contrariée, hein, à ce type de stimulus. Et ce qui est intéressant, c'est que quand même, même s'il y a des petites variations interindividuelles, on est quand même à peu près tous soumis à ce côté désagréable de ces bruits-là.
Ils ont tous à peu près le même effet, donc à la fois ça passe par l'ouïe, mais effectivement c'est dans tout le corps qu'on le ressent.
C'est un peu dans tout le corps, là c'est ça. C'est-à-dire que ça doit mobiliser, ça mobilise en fait, on le voit lorsque il y a des gens qui ont passé les personnes en imagerie, on voit que ça mobilise très vite les réseaux émotionnels, cérébraux, donc les amygdales au niveau du cerveau, l'insula, des régions qui vont très vite être sollicitées par tout ce qui est émotionnel, soit positif, soit en l'occurrence plutôt aversif, c'est-à-dire qui va entraîner plutôt un retrait, quoi, une envie un petit peu de fuir le stimulus.
On ne fuit pas, on continue d'observer avec vous, Laurent Vercueil, ce qui se joue dans notre cerveau quand ça chatouille, quand ça gratouille, quand ça agace ou quand ça stimule un peu trop nos corps et nos esprits facilement dérangés. À l'écoute d'Alice on the Roof sur RFI, Malade.
J'ai tout tenté, à leur guise de me déguiser, j'ai tout écouté. Sur le comment je devrais, même ma voix. Trémolo, faut-il ou faut-il pas m'amenaiser moi? Me laisser aller, je ne voudrais pas. Mes mauvaises nouvelles, la voilà ma maladie. En effet, comme l'on est, c'est maman qui me l'a dit. Mauvaise mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. On est fait comme elle, on est maladie.
Du deuxième couplet, je sais plus trop quoi raconter. À peu près la même chose que dans le premier. Ah non.
Et y a pas d'âge pour se dire heureux dans une cage. Et y a pas d'adage qui mettrait à mal le message. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme elle en est, c'est maman qui me l'a dit. Mauvaise nouvelle, la voilà ma maladie. En effet, comme elle en est, me l'a dit. Comme l'on est, c'est maman qui me l'a dit. Ouais. Mauvaise nouvelle, là voilà ma maladie. On est fait comme on est, elle me l'a dit.
Malade, Alice on the Roof sur RFI. Nous voilà bien perchés en compagnie du neurologue Laurent Vercueil et de son irrésistible essai sur les chatouilles et autres petits tracas neurologiques. Nous continuons de nous demander ce que tous ces micro-incidents, les chatouilles donc, mais aussi les gratouilles, les démangeaisons, les frissons, les mamouettes ou encore les fous rires nous apprennent sur le fonctionnement de notre cerveau. Pourquoi nos neurones s'emballent-ils si vite et pour si peu? Et comment par exemple arrêter, enfin faire passer un hoquet? À chacun sa méthode, écoutez voir celle de l'animateur Nagui.
C'est quoi votre truc, Nicole, contre le hoquet?
Si on fait ça au premier ou au second, ça passe.
Vous croisez les doigts?
Ouais.
Les deux côtés?
Les deux côtés.
Vous vous concentrez, vous les regardez fixement, en fait quoi?
Non, j'appuie, voilà, on appuie, voilà, et on attend.
Sans rien faire, et ça passe?
Ouais, sérieux.
Ah oui, mais il y en a d'autres qui viennent.
Non.
J'ai un truc infaillible,
mais
que tout le monde connaît. Mais non, le verre à l'envers, vous connaissez?
Ah oui, ouais.
Quoi? Ça marche extrêmement. Qui ne connaît pas?
Qui ne connaît pas au moins un truc pour faire passer le hoquet, comme le rappelait Nagui sur France Télévisions? Est-ce que ça marche, Laurent Vercueil?
Alors, dans l'immense majorité des cas, ça marche, parce qu'un hoquet finit toujours par passer. Donc, il suffit d'attendre un tout petit peu, ça va s'arrêter, quoi qu'on fasse.
Quoi qu'on fasse, et qu'est-ce qui marche mieux? Parce qu'on disait, il faut faire peur, il faut effectivement boire un verre d'eau à l'envers. Alors, croiser les doigts, ça, j'avais jamais essayé.
Il n'y a jamais eu d'études qui comparaient vraiment tout l'ensemble des méthodes héritées de nos générations de grand-mères, qui toutes les unes derrière les autres ont inventé des choses encore plus astucieuses. Mais disons que dans les services d'urgence, lorsqu'il y a vraiment des hoquets très, très importants qui peuvent persister plusieurs jours, qui sont épuisants, parce que ça peut être, il y a une manœuvre qui s'appelle la manœuvre de Salem, qui permet de stimuler avec une petite sonde gastrique l'arrière de la gorge, et ça semble marcher. Moi, j'ai jamais utilisé ça, je sais pas si ça a été éprouvé, mais.
Parce qu'il y a des hoquets, alors pour le coup, c'est forcément ridicule d'avoir le hoquet, mais il y a des hoquets qui ne s'arrêtent pas.
Voilà, c'est ça. Il y a des hoquets qui peuvent durer plusieurs heures, voire plusieurs jours, et qui peuvent être épuisants, entraver le sommeil, avoir un effet assez important sur la vie quotidienne.
Qu'est-ce que c'est que le hoquet?
Alors le hoquet, c'est une petite secousse qui va toucher les muscles respiratoires, notamment le diaphragme, et qui semble déclencher par un petit arc réflexe, un arc nerveux réflexe, entre l'œsophage, l'estomac, et puis ces muscles respiratoires. Et on pense que le but, un petit peu, de cette secousse, c'est de pouvoir chasser rapidement, en élevant brutalement la pression intrathoracique, quelque chose qui pourrait être coincé au niveau de l'œsophage ou de la partie haute de l'estomac, et ça serait un petit peu comme un équivalent de toux, mais pour le système digestif.
Alors on connaît, les bébés hein, souffrent de hoquets aussi, dès le plus jeune âge. Hein,
Parce que le point de départ, ça va être ça, ça va être une dilatation un petit peu trop rapide hein, de l'estomac ou de l'œsophage qui déclenche ce réflexe de hoquet. Et c'est souvent pour ça qu'on l'a, après avoir mangé
un peu trop vite.
Un peu rapidement, voilà, c'est tout à
alors
fait...
Alors on connaît aussi le hoquet du capitaine Haddock.
Voilà, ou les boissons alcoolisées.
Qui est un peu trop bu aussi,
il y a beaucoup,
oui.
beaucoup de causes possibles, notamment des causes effectivement chimiques. Hein, le hoquet peut très bien être lié à une absorption d'alcool.
Alors, on a parlé des trucs pour faire passer le hoquet, vous en citez un, enfin vous en citez deux, plutôt intéressant, l'orgasme ou la masturbation pourrait arrêter le hoquet.
Oui, bon, ça a été observé chez un Canadien qui souffrait d'un hoquet très très persistant, puisque ça faisait bien 48 heures, ou même 3 jours, 4 jours qu'il avait le hoquet. Et puis ce monsieur canadien arrive quand même à trouver la force de faire l'amour à sa femme, et lors de l'orgasme, son hoquet disparaît. Et en fait, ça a l'air un petit peu anecdotique, mais probablement, si vous voulez, l'orgasme est quelque chose qui a des effets physiologiques qui sont assez importants, notamment sur le système vagal. Le système vagal, c'est une partie du système autonome, le nerf vague. Voilà. Et c'est une région qui est mobilisée par d'autres facteurs, comme par exemple la peur. Hein, la peur brutale peut entraîner des syncopes réflexes. Lorsqu'on a très peur, on peut s'évanouir. Lorsqu'on s'évanouit, c'est parce qu'on fait une syncope vagale. Donc, lorsqu'on fait peur à quelqu'un en espérant que ça supprime son hoquet, c'est probablement parce qu'on essaie d'activer de manière importante son système vagal.
Et donc, aussi... faire l'amour, avoir un orgasme, ça active le nerf vagal.
Voilà, c'est ça. Oui, on peut avoir des gens qui font des syncopes lors des orgasmes, ça arrive d'origine vagale. Le système vague est un système qui va ralentir le cœur, diminuer la pression artérielle, et à l'excès peut très bien entraîner une petite syncope, ça arrive. Hein.
Et là encore, c'est le corps qui dirige, hein. C'est vraiment pas le cerveau qui dirige l'affaire. Hein.
Ça se passe complètement dans le corps, hein, tout à fait, hein, même si on parle du système nerveux parce que c'est une boucle réflexe nerveuse, ça se passe dans le corps, bien sûr.
Et c'est lié, alors c'est le corps, le cerveau, et c'est lié à l'environnement aussi, à ce qui se passe autour. C'est une sorte de boucle, en fait.
Voilà. Ben, si vous voulez, il faut vraiment prendre en compte, pour être complet, il faut vraiment prendre en compte les trois composantes, en évitant de les séparer, parce que c'est tellement interrelié. Donc, l'environnement, avec les stimulations qui nous arrivent, la vie du corps, ce qu'on appelle l'interoception, c'est-à-dire la sensation de notre corps en train d'exister, en train de vivre.
La perception qu'on a à l'intérieur de notre corps.
Et puis, la partie la plus éthérée, celle à quoi, vraiment, c'est un peu le but du livre, j'évite qu'on nous résume, qui est la vie psychique. C'est-à-dire qu'en gros, toutes les idées que j'ai en tête, comment j'estime moi que je dois me sentir, etc. Et si vous voulez, ces trois composantes-là, la sensation... se passe à cette collision-là de ces trois mondes-là. Le monde environnant, le vécu du corps et ce que j'élabore autour comme pensée. Et je prends toujours un peu le même exemple qui est, en gros, l'idée, vous arrivez, vous mettez les pieds dans la mer et devant vous, vous avez l'étendue de la mer. La situation, elle peut être tout à fait différente en fonction de si c'est votre premier jour de vacances, votre dernier jour de vacances, si vous venez de perdre quelqu'un de cher, si vous êtes à l'orée d'une nouvelle existence avec... Alors que c'est la même situation, vous voyez, c'est-à-dire que la vie psychique n'est pas quelque chose qui est complètement désarticulé du reste. Et on est vraiment à cet entrecroisement de ce qui se passe dans la pensée, de ce qui se passe dans le corps, et bien sûr, quelque chose dont on ne peut pas être extrait, qui est le monde environnant et ses stimulations.
Et c'est notre corps, hein, au fond, qui nous parle dans tous ces micro-incidents, qui nous rappelle, hein, qui nous dit qu'il se passe quelque chose, même si dans notre tête, on est déjà ailleurs, ou même si on n'a pas envie du tout que ça se passe.
Voilà,
c'est un éternuement, par exemple. Je ne parle pas quand on est malade, mais un éternuement comme ça, on ne peut pas l'arrêter. C'est notre corps qui s'exprime.
C'est le corps qui s'impose à nous. Et ça nous rappelle un petit peu que, malgré tout, on est un corps. Et même notre cerveau, qu'on a tendance un petit peu à déifier presque, à en faire quelque chose de complètement extérieur,
il n'est pas séparé.
C'est une partie du corps. C'est une partie du corps. Donc...
À ce sujet, une question précisément pour vous, c'est celle du philosophe Stéphane Flocari, qui était récemment notre invité, on l'écoute.
Est-ce que vous diriez que nous avons un corps, mais nous sommes un corps, c'est ce que la phénoménologie appelle le corps propre. Au fond, nous ne disposons pas de notre corps tant que nous sommes vivants. Nous avons un corps lorsque nous sommes un cadavre, mais le reste du temps, quand nous dansons, quand nous chantons, quand nous parlons, quand nous aimons, quand nous faisons l'amour, nous sommes un corps, nous n'avons pas un corps. Alors, est-ce que nous pourrions dire de la même façon que nous sommes un cerveau et non pas que nous avons un cerveau. Est-ce que ça a un sens de dire que j'ai un cerveau performant, un gros cerveau, ou bien est-ce que je suis un cerveau ?
Votre réponse, Laurent Berkel.
C'est une question très intéressante, une question un peu philosophique. Moi, je suis tout à fait d'accord avec la première partie, hein, qui est de dire nous sommes un corps, bien sûr. C'est pas un corps que nous avons. Nous sommes ce corps-là et c'est lui qui vit une existence. Et ensuite, là-dessus, nous élaborons en gros l'histoire de notre existence qui nous permet, c'est important, hein, d'avoir un petit peu une théorie de nous-mêmes, une théorie de ce qui nous arrive, une théorie de ce qu'on va faire. Mais ça reste une théorie. D'abord, nous sommes existants.
En premier, il y a le corps, notre existence.
Voilà, en premier lieu, il faut exister. Moi, je tourne toujours un petit peu la formule « l'existence précède l'essence » en la prenant un petit peu au pied de la lettre. D'abord, exister. Ensuite, on élabore des théories un petit peu sur ce qu'on est en train de vivre. Mais ça, c'est secondaire, on va dire. Ensuite, moi, ce que je dirais sur les relations corps-cerveau, c'est que vraiment, le cerveau fait partie du corps. Alors, bien sûr, dans ce que... Moi, c'est un peu ambigu, parce que j'utilise un petit peu ce dualisme corps-cerveau dans le livre, parce que je dis, voilà, le corps s'impose au cerveau, etc. Mais pour moi, il est entendu que, bien sûr, le cerveau fait partie du corps, et le corps est dans le cerveau, donc les deux sont très très interpénétrés, hein. On a une représentation complète du corps dans le cerveau, et c'est ça qui crée la sensation physique d'existence.
Alors justement, on a une représentation du corps dans notre cerveau, une représentation étonnante, qui n'est pas celle réelle, hein. Il y a une représentation du corps dans le cerveau, on l'évoquait à propos de la chatouille par exemple, enfin, il y a des parties du corps qui ont une plus grande place dans notre cerveau que d'autres.
Voilà, bien sûr.
J'agite mes mains en disant ça, je crois que les mains c'est pas mal, hein, dans le cerveau.
Exactement, parce qu'en fait on n'a pas une seule représentation du corps, on a bien sûr de très nombreuses représentations dépendant des différentes modalités de perception qu'on a de notre corps. Mais par exemple, pour ce qui est de la modalité sensitive, donc comment je sens avec mes doigts, avec mes lèvres, avec ma langue, à nouveau, comme on a une densité de récepteurs qui est beaucoup plus importante sur ces régions-là qui sont les plus sensibles, au niveau cérébral, on aura une densité de neurones qui vont traiter l'information qui sera beaucoup plus importante. Du coup, ça réalise en gros une image de soi qui est un peu déformée, puisqu'on va avoir de grandes mains avec de grands doigts, plutôt des petits bras, un tout petit tronc, une grosse tête avec surtout une grosse face et de grosses lèvres et de grosses langues, parce que ça va traduire en gros l'importance qu'on donne à l'information perceptive de ces régions-là. Hein, c'est-à-dire que c'est de là que nous viennent les plus importantes des informations sensitives.
Sensitives, donc qui suscitent des émotions, ce sont les émotions qui suscitent, vous parlez des mains moites par exemple, dans ce livre, des frissons ou de la chair de poule. Est-ce que c'est parce que j'ai un peu peur ou j'ai un peu mal à l'aise que j'ai les mains moites, ou est-ce que j'ai les mains moites et du coup ça me met mal, enfin, dans quel sens ça marche?
C'est une très bonne question. C'est une question que le psychologue William James en 1884 avait avancé un petit peu de façon suivante, en disant est-ce que lorsqu'on se trouve tout d'un coup devant un ours, on a peur et donc on se met effectivement à avoir les mains moites, à trembler, à transpirer et à s'enfuir, ou est-ce que c'est pas plutôt l'inverse? C'est-à-dire que on est devant l'ours, on a tout d'un coup les mains moites, on se met à transpirer, on tremble, et donc on a peur. Et en fait, tous les travaux, notamment à partir de ceux de Damasio, hein,
Anthony Damasio,
qui est le neurologue, qui est dans les années 80, 90, voilà, a bien montré ça, nous suggère, hein, qu'il y a d'abord, en gros, l'expression du vécu physique via les émotions, et ensuite l'édification, l'élaboration des sentiments de peur ou tous les sentiments qui peuvent être associés aux émotions.
On commence par avoir peur avant de penser qu'on a peur.
Voilà.
C'est
exactement.
Notre corps qui a peur.
Notre corps a d'abord peur.
Avant même notre cerveau, si je veux dire.
Voilà, ça suscite le sentiment de peur.
C'est notre corps aussi qui a le fou rire. On en arrive évidemment à ce fameux fou rire. Moi, j'en ai eu un une fois à l'antenne. Il a fallu que je m'arrête et que je ne pouvais pas le laisser sortir. Et c'est très douloureux. Après, autrement, le fou rire, c'est plutôt agréable, mais c'est irrésistible. On ne peut pas s'arrêter quand on a un fou rire. En Berkel.
Oui, parce qu'en fait, le rire, en général, est quelque chose qui est déclenché à un niveau extrêmement autonome du système nerveux. C'est-à-dire à des régions qui ne sont pas du tout très élaborées, très construites. On est plutôt sur des structures assez primitives, archaïques. Alors j'aime pas trop aborder le cerveau de cette façon-là, parce qu'on n'a pas un cerveau qui a un empilement de vieilles structures moyennes, etc. C'est un tout et toutes les régions sont... Mais disons que, par exemple, l'hypothalamus, qui a un rôle important dans cette pression, cette envie de déclencher le rire, est une région qui a un grand rôle dans la régulation autonome du fonctionnement du corps.
Donc ça se passe vraiment tous hors de nous, à l'intérieur de nous, mais hors de notre contrôle.
Assez loin, finalement, de tous les, de toutes les régions qui élaborent, en gros, la pensée la plus délicate, la plus éthérée, celle qu'on aime bien, la pensée la plus philosophique, la pensée la plus...
On est balourd quand on a le fou rire.
Là, on ne peut plus le fou rire. On voit bien que toute la philosophie du monde ne permettra pas de passer par-dessus. Il va falloir éclater de rire.
Il va falloir éclater de rire, même dans les situations les plus étranges, autour de la question pourquoi le fou rire et qu'est-ce que notre corps nous apprend sur notre cerveau. Je propose d'écouter le plus célèbre fou rire musical, vous voyez ce que je veux dire, celui d'Elvis Presley, que vous citez d'ailleurs, Laurent Vercueil, dans votre livre. On écoute ce moment d'anthologie et le fou rire évidemment communicatif d'Elvis Presley en 1969. Are you lonesome tonight? Sur RFI, juste pour le plaisir.
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? I do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your bald head and wish you had hair? Is your heart filled with pain? Shall I come back? Tell me, dear, are you lonesome? Oh, Lord. I wonder. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. And I had no cause to die. Oh, sing it, baby. Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Le fou rire d'Elvis Presley, qui est extrêmement contagieux, et puis derrière, la choriste continue d'assurer, la choriste qui était la mère de Whitney Houston, ce que vous nous apprenez dans ce livre, Laurent Vercueil. Comment se fait que c'est aussi à la fois contagieux, comment se fait que ça marche comme ça, parce qu'il y en a musical, son fou rire.
Alors, ça marche, c'est jubilatoire en fait.
Hein,
on se met à jubiler. Le rire en général, bon, le rire est aussi une manifestation sociale. Hein, c'est communicatif le rire, c'est-à-dire que c'est aussi une façon d'être dans le jeu, dans la relation sociale, plutôt positive, donc plutôt agréable.
Oui, c'est du bien de rire ensemble.
Et donc
enfin.
Voilà, rire ensemble est un moment de partage qui est apprécié. Donc un fou rire comme celui-là, où en plus il y a cet aspect un peu émotionnel de la nécessité de contrôle, hein, qu'il faudrait avoir et qu'on n'a pas, et on se dit le pauvre, il n'y arrive pas. Alors le pauvre Elvis Presley, c'est Elvis Presley, donc il pouvait vraiment se permettre ça, c'est pas très grave. Hein,
Est-ce qu'on sait ce qu'il a déclenché, ce fou rire ?
Alors, j'ai lu que c'était un enregistrement en public, en fait, hein, sur un petit public de radio, donc un petit studio. Et je crois qu'il y a eu un peu deux choses. D'une part, il y avait un spectateur qui était là, qui avait une petite perruque et qui faisait tourner sur sa tête. Et je crois que dans les paroles qu'il est en train de chanter, il change un petit peu les paroles, Elvis, et il se met à parler de la perruque qui tourne sur la tête.
D'accord, c'est peut-être ça qui a été déclencheur de son fou rire.
Et puis on dit aussi que la ligne de la choriste, là, qui est si bien tenue, qui est si professionnelle, si rigoureuse, et beau, hein, c'est magnifique.
Ça a pu le faire partir aussi.
Ça contribue aussi à ce décalage qu'Elvis a ressenti.
Alors vous revenez aussi dans cet ouvrage, Chatouille, fou rire, enfin c'est pas dans le titre, et autres petits tracas neurologiques, sur des tracas neurologiques plus étranges, un peu plus étranges, comme ce sentiment de déjà-vu. Qu'est-ce que c'est que ce sentiment de déjà-vu qu'on a tous un peu eu, mais qu'on arrive même, dont on n'arrive même pas à parler, en fait?
C'est vraiment un sentiment très, très étrange. Hein. Alors, moi, ça fait longtemps que je n'en ai pas eu, parce que je suis plutôt jeune, mais les gens jeunes sont très sujets au déjà-vu, ce qui est quand même un peu paradoxal, parce qu'après tout, moi, j'ai quand même beaucoup vu, plus vu
c'est
de
ça,
choses
plus que... plus on devrait être sujet au déjà-vu.
On devrait avoir plus de déjà-vu que les sujets jeunes. Et cette impression un petit peu que la scène qui se déroule devant soi a déjà eu lieu, ou qu'on pourrait prédire ce qui va se passer, ce qui va être dit. Hein. C'est-à-dire que, alors, généralement, on ne peut pas prédire, mais c'est lorsque les choses sont dites, par exemple, qu'on dit « Oh, ben, j'aurais pu le dire. J'aurais pu le dire que c'était ça, je le savais. Alors, ça a donné lieu à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interprétations, parce que même Hippocrate, déjà, avait réfléchi là-dessus. Hein. Et alors, dans le bouquin, je distingue un petit peu deux types d'explications. Les plus anciennes, qui sont plutôt externalistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que si on revoit les choses comme on les aurait déjà vues, c'est que effectivement elles se reproduisent telles que. Hein, et que dans ce cas, c'est que vraiment la scène a réellement déjà eu lieu, et que donc c'est peut-être un indice que les choses en fait se répètent et qu'on est dans un monde de l'éternel retour ou de la réincarnation. Enfin, ça dépend un petit peu des théories qui sont derrière. Et puis, à partir de la fin du 18e, début du 19e, ont émergé les théories plutôt internalistes qui se disent non, ça c'est dans le cerveau que ça se passe, il va y avoir un petit problème, un petit bug dans la matrice.
Oui, c'est ça, parce que d'ailleurs, dans le film Matrix,
il y a un épisode de déjà-vu.
Il y a un épisode de déjà-vu.
À chaque et là, donc, ont été élaborées de très nombreuses théories. Alors, il y avait même un neuropsychiatre sud-africain qui en avait dénombré 70, théories différentes du déjà-vu. Et actuellement, l'une de celles qu'on privilégie, qui peut-être, alors peut-être pour un temps, hein, ça reste un peu à l'état d'hypothèse, est que tout ce qu'on voit, tout ce qu'on enregistre, est accompagné d'un petit signal qui vient d'une petite région du cortex temporal qu'on appelle le cortex entorhinal, qui est le signal de nouveauté. C'est-à-dire que ce que je vois,
notre cerveau, il aime bien les nouveautés, il cherche les nouveautés.
Oui, et puis assimile ça avec un espèce de topage, comme sur les bandes magnétiques, en disant tac, ça c'est vu. Et si ça manque, parce qu'il y a un petit retard, un petit décalage, ce signal de nouveauté va faire défaut, ça va manquer. C'est-à-dire que je vais voir la scène et je n'aurai pas mon petit signal habituel en me disant « ça c'est bien nouveau ». Et mon cerveau va se dire « mais si c'est pas nouveau, c'est donc que je l'ai déjà vu ». Il va interpréter la scène, il va interpréter ce manque de nouveauté comme étant quelque chose qu'éventuellement il a déjà vu. Et c'est un petit peu une révolution, parce que jusqu'à présent on pensait que c'était un signal ajouté. En fait, c'est un signal qui fait défaut et qu'on réinterprète en disant si c'est pas nouveau, c'est qu'on l'a déjà vu.
Le cerveau, il se raconte des histoires impossibles, n'est pas cérébral, dites-vous. Et du coup, on se dit que notre cerveau, c'est tout sauf une machine, hein, on l'a dit, il doit être incarné dans notre corps, situé. Ce qui nous donne ce qui nous enlève un peu nos peurs par rapport à l'intelligence artificielle, parce qu'un cerveau tout seul, qui n'est pas dans un corps, il ne ressentirait pas tous ces tracas-là, mais il ne serait pas humain. Enfin, il n'aurait pas cette intelligence-là non plus.
Oui, c'est tout à fait une limite sur laquelle les informaticiens sont tombés. Alors, il y a déjà un petit moment, hein, c'était les années 80, où ils se sont dit on a quand même un problème avec nos traitements d'information, c'est qu'on n'arrive pas à rendre le côté incarné. Incarné, alors en anglais c'était embodiment, c'est-à-dire le fait que, après tout, il y a ce vécu, cette expérience-là qui manque à un traitement informatique. Vous prenez un ordinateur, vous donnez des choses à traiter, vous l'emmenez au sommet de l'Himalaya, dans le désert du Sahara ou dans un bureau blanc, il fera le même résultat à la fin, le calcul sera le même. Et ça, pour nous, c'est pas possible. Notre expérience, notre vécu, notre façon d'analyser sera tout à fait différente en fonction de la situation dans laquelle on se trouve, l'histoire qu'on a eue, etc. Et c'est tout ce qui fait la différence entre le traitement d'information et l'expérience que c'est d'être un être humain.
Heureusement, donc, on n'est pas prêt de télécharger un cerveau dans un ordinateur. Un autre célèbre neurobiologiste dont on a parlé, Antonio Damasio, partage votre approche. Laurent Vercueil, l'auteur de L'erreur de Descartes et de Spinoza avait raison, a publié cette année L'ordre étrange des choses. Et si les émotions et les sentiments étaient à l'origine même du vivant et évidemment indissociables du corps, c'est l'éclairage d'Antonio Damasio qui était récemment notre invité.
Ça se passe à travers une relation très particulière entre le cerveau et le corps. Alors c'est faux, comme je dis dans le livre quelque chose que je trouve comme très important et c'est nouveau, c'est de nier la possibilité d'avoir un esprit seulement basé sur le cerveau. Ce n'est pas vrai que le cerveau est le créateur de notre esprit. Notre esprit vient d'une coopération, d'une interaction entre cerveau et corps. Et cette interrelation donne lieu à l'esprit. Alors, vous disiez très bien que ça se passe dans le cerveau et ça se passe aussi dans le corps.
Les deux sont indissolublement liés.
Absolument, c'est impensable d'avoir un cerveau qui pense. Le cerveau, par lui-même...
Il doit être incarné. Hein.
Oui, oui. Et il y a presque trois quarts de la vie dans la planète sont passés très bien sans cerveau.
Hein.
Le cerveau est un serveur du corps. Le cerveau a triomphé dans l'évolution parce que le cerveau permettait de coordonner tous les services du système endocrine, du système immunologique, de la circulation et de faire tout ça marcher pour que le corps continue à vivre.
Le cerveau est le serveur du corps, hein, selon Antonio Damasio, vous partagez cette optique.
Ah oui, bien sûr, complètement. Moi, je suis de la génération qui a appris la neurologie dans les livres de Damasio, les années 90, où sortait l'erreur de Descartes. Moi, j'étais interne en neurologie, donc c'est des bouquins que j'ai lus, relus et dévorés avec beaucoup d'appétit.
Vous dites d'ailleurs, dans l'année chapitre de votre ouvrage, notre corps et notre cerveau sont unis pour la vie. Voilà, et c'est notre manière à nous d'être vivant.
Et je pense sincèrement qu'il y a un message important et si vous voulez le fait ce que dit Damasio, hein, que on peut se penser d'abord comme un corps qui existe. Alors je termine un petit peu là-dessus en évoquant une étude qui m'a fasciné, parue dans le Lancet, c'était l'an dernier, qui montrait que pour des gens qui sont dépressifs, résistants aux médicaments, donc des dépressions très sévères, le fait de pouvoir leur faire vivre des expériences avec le corps, c'est-à-dire venir, les emmener, sortir, pas des choses compliquées, simplement vivre, marcher, aller dans un parc, aller voir ci, voir ça, se déplacer, exister en quelque sorte, avait des effets très très positifs, très bénéfiques sur leur état d'humeur et pouvait améliorer la dépression de manière assez importante.
On oublie un peu notre corps aujourd'hui, on est un peu trop, on veut aller très vite, on est beaucoup dans le virtuel, enfin on oublie un peu.
Je pense qu'il y a deux choses qui jouent, d'une part effectivement vous avez raison, hein, ce monde virtuel, c'est peut-être un peu la pression, etc. Et puis je pense quelque chose qui fonctionne beaucoup aussi, c'est l'analogie qu'on a un peu naturellement avec tous ces systèmes informatiques dont on est entouré, qui se dire on est un peu comme eux finalement, on a l'information, on la traite, on ressort des résultats, et on oublie l'importance qu'il y a de vivre des choses avec notre corps. Et moi, souvent, les patients que je vois en consultation, je leur conseille de marcher régulièrement. Alors, c'est vraiment des choses, c'est pas des messages extrêmement originaux, hein, mais marcher...
De réintégrer son corps.
Voilà,
en fait.
Réintégrer son corps, être à l'écoute. Parce que si vous voulez sortir, marcher... Alors, je leur dis, surtout, ne marchez pas pour aller chercher le pain ou pour marcher. Juste pour sentir un petit peu l'effort, le vent qui vient sur votre visage, c'est-à-dire toutes ces sensations qui vont tout d'un coup bombarder votre corps et sentir comme c'est normal d'avoir cette sensation de corps vivant et comment ça fait du bien au final.
Ouais, c'est simplement être en vie, quoi.
De se sentir en train d'exister.
Même si on éternue, même si ça chatouille, même si ça gratte, hein, finalement. Merci infiniment, Laurent Bercueil, d'être venu en direct nous chatouiller les neurones. Je rappelle le titre de votre livre, Irrésistible, vraiment hein, drôle et très instructif, Chatouille. Et autre petit trac neurologique, ce que notre corps nous apprend sur notre cerveau, qui vient de paraître aux éditions Belin. Vous revenez quand vous voulez.
Merci beaucoup, Caroline.
Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous réécouter, à nous podcaster sur le site de RFI et sur l'appli RFI Pure Radio. Au plaisir de vous retrouver demain pour la suite de ces rediffusions d'été. Merci de votre curiosité, amis auditeurs à l'esprit libre et ouvert. Dans quelques instants, vous retrouverez les informations sur la Radio Mondiale.
Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr. RFI, les voix du monde.